VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 18h30 temps universel, le monde aujourd'hui du vendredi 14 avril 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, en RDC, un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de deux experts onusiens. Commémoration au Nigeria pour les lycéennes de Chibok, enlevées il y a tout juste 3 ans. En magazine, nous parlerons des tirailleurs sénégalais. Une cérémonie de naturalisation se tiendra demain à Paris. Retrouvez Bagassi Koura à la fin de ce journal pour les sports et Clermont Ringibourg pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre des deux experts onusiens dans le Kasaï central. Les précisions de Dilidico.
Les autorités congolaises disent avoir arrêté 2 suspects dans l'enquête sur les meurtres de Michael Sharp, Zaïda Catalan et leur interprète Betou Chintela. Le général Joseph Pondé, procureur de l'armée, précise que l'un des 2 suspects s'est échappé avec la complicité de 4 policiers placés en garde à vue. Le suspect en détention, Daniel Mbayi Kabasele, est qualifié d'insurgé par le procureur militaire qui n'a donné aucune précision sur les motivations. Les 2 experts de l'ONU enquêtaient sur des allégations de violation des droits de l'homme suite à la découverte de plusieurs fosses communes dans la région. D'ailleurs, leurs dépouilles ont été retrouvées dans une fosse commune le 27 mars, 2 semaines après leur disparition. La province du Kasaï central est le théâtre de violences qui ont fait des centaines de morts depuis l'apparition en septembre 2016 d'une rébellion se réclamant d'un chef traditionnel, Kamuina Nsapu, qui a été abattu par les forces de l'ordre.
Sachez aussi que la République démocratique du Congo a suspendu sa coopération militaire avec la Belgique. La mesure intervient après des critiques de Bruxelles à l'encontre du président Joseph Kabila. Plusieurs rassemblements sont organisés aujourd'hui au Nigeria pour ne pas oublier les quelques 200 lycéennes de Chibok enlevées il y a 3 ans par Boko Haram. Les précisions de Tatiana Mosso.
Alors qu'elles étaient en train de passer leur examen, 276 élèves ont été kidnappés le 14 avril 2014. 57 d'entre elles sont parvenues à s'échapper juste après le rapt. Relayé par les médias du monde entier, cet enlèvement de masse avait provoqué une vague d'indignation. En octobre 2016, 21 jeunes filles ont été libérées, pour certaines avec des enfants nés en captivité, après des négociations entre Boko Haram et le gouvernement, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge et de la Suisse. Une poignée a été retrouvée dans la forêt de Sambisa, mais 195 lycéennes sont toujours portées disparues. À Abuja, la capitale fédérale, où le collectif Bring Back Our Girls est resté actif, des arbres seront plantés à la mémoire des jeunes filles. À Lagos, la capitale économique, le collectif doit se recueillir pour des prières. Mais Bring Back Our Girls, un slogan scandé depuis 3 ans, semble s'enliser, tout comme le conflit contre Boko Haram. Les lycéennes de Chibok sont devenues un symbole. Aboubakar Shekau, le leader du groupe djihadiste, a affirmé dans une vidéo qu'un grand nombre d'entre elles avaient été tuées dans des raids de l'armée nigériane.
Bénin, le gouvernement déclare la fin d'une épidémie de fièvre hémorragique de Lassa qui aurait fait 2 morts depuis février. Et en Guinée-Bissau, un militant de la société civile, Légio Monteiro, critique du président José Mario Vaz, a été violemment agressé dans sa résidence privée par des individus non identifiés. C'est ce qu'a annoncé son entourage à l'AFP. Tanzanie, 8 policiers ont été tués par balle hier soir. Des inconnus ont attaqué leur véhicule à Jaribu, dans l'est du pays. D'après les autorités, 4 suspects ont été tués par des policiers. Il faut dire que la région est frappée par une série d'attaques contre des politiciens et des forces de l'ordre. Et nous restons en Tanzanie. La justice a ordonné l'extradition vers les États-Unis d'un baron de la drogue. Ali Khatid Haj Hassan est accusé par Washington d'être à la tête d'un réseau mondial de trafic de cocaïne et d'héroïne. Soudan du Sud, trois employés d'un sous-traitant du Programme alimentaire mondial ont été tués lundi lors des combats à Waou, dans le nord-ouest du pays. De nationalité sud-soudanaise, il semble avoir été tué alors qu'il tentait de rejoindre un entrepôt du PAM, où il travaillait comme porteur. C'est ce qu'indiquait l'organisation. Deux d'entre eux sont morts à coups de machette. Selon l'ONU, au moins 16 civils ont été tués pendant ces combats. Journée de colère en Tunisie, un syndicat estudiantin dénonce des violences policières intervenues mardi lors d'une manifestation étudiante à Tunis. Ils ont aussi appelé à la grève générale. Et en France, une cérémonie de naturalisation de 28 tirailleurs sénégalais se tiendra samedi à Paris. Présidée par François Hollande, cette cérémonie s'inscrit dans la volonté de reconnaître leur engagement et leur courage, indiquent les autorités françaises. Issus de l'Afrique saharienne, les tirailleurs sénégalais ont combattu dans l'armée française, en Indochine ou en Algérie, entre 1857 et 1960. Nous reviendrons sur les tirailleurs sénégalais dans la partie magazine de cette émission.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie vote dimanche lors d'un référendum historique sur une vision, révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Un scrutin qui pourrait être déterminant pour l'avenir du pays. Salwa Jafari.
C'est un vote qui divise le pays. Près de 55 millions d'électeurs vont devoir se prononcer par référendum sur une révision de la Constitution et beaucoup sont descendus dans les rues aujourd'hui pour dire non. Le texte prévoit de renforcer les compétences du président qui rassemblerait l'essentiel du pouvoir exécutif. Cette consultation qui pourrait en théorie permettre à Erdogan de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029 est un test majeur pour l'homme fort du pays, surtout après le coup d'État avorté du 15 juillet dernier qui a entraîné des purges à grande échelle dans tous les milieux. Bien que pour l'heure, les derniers sondages semblent montrer un certain élan en faveur du oui, le parti de la justice et du développement au pouvoir depuis 2002 n'a pas ménagé sa peine pour fédérer plus de supporters en organisant rallyes électoraux et autres manifestations. Une victoire du non au référendum serait sans doute un camouflet pour Erdogan qui a mis tout son poids dans la campagne. Par ailleurs, le résultat de cette consultation populaire influerait sur l'avenir des relations avec l'Union européenne. Erdogan a indiqué que la candidature de la Turquie qui a l'UE au point mort depuis des années serait mis sur la table après le référendum. Il a aussi relancé le débat sur le rétablissement de la peine capitale, une ligne rouge pour Bruxelles.
Enquête en Syrie sur l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun. La Russie reproche à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de ne pas enquêter sur le terrain et d'en côté à distance. Moscou exige donc que des experts américains et russes se joignent à l'enquête. Et puis, réaction suite au bombardement américain d'hier à Nangar, dans l'est de l'Afghanistan. Le groupe État islamique dément avoir subi des pertes. Les autorités afghanes affirment pourtant que 36 djihadistes sont morts. La bombe à effet de souffle massif, surnommée à Washington la mère de toutes les bombes, est la plus importante bombe non nucléaire utilisée par les États-Unis. Pyongyang hausse le ton face à Washington. L'armée nord-coréenne a promis une réponse sans pitié à toute provocation, alors qu'un porte-avions américain faisait route vers la péninsule coréenne. Pyongyang est soupçonné de vouloir mener ce week-end un essai nucléaire. Et de son côté, la Chine a averti qu'un conflit peut éclater à tout moment. Selon Pékin, le dialogue est la seule solution. Sachez enfin que c'est aujourd'hui Vendredi Saint. Des milliers de pèlerins du monde entier et de chrétiens palestiniens ont refait à Jérusalem le chemin que Jésus a emprunté en portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion selon la tradition chrétienne. Et ici même aux États-Unis, rien que ce matin, j'ai croisé un monsieur dans ma rue qui marchait et qui portait sur son dos une très grosse croix. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Claire Morin-Gibourg, la Minute Éco.
Abidjan et Accra ont jeté les bases d'un cartel du cacao. Au terme de deux jours de conclave, le Conseil Café Cacao côté ivoirien et le Cocoa Board côté Ghana ont signé hier les accords d'Abidjan, premier pas vers une coopération sur les problématiques de la filière, production, transformation ou même changement climatique. L'idée centrale est la fixation des cours des fèves sur le marché international. Fournisseur de 60% de l'offre mondiale de cacao, Abidjan et Accra restent vulnérables à l'instabilité des cours, lesquels ont chuté de 35% depuis un an en raison d'un surplus de production. Lors d'une réunion aujourd'hui des ministres des Finances de la zone franc à Abidjan, le ministre français de l'économie Michel Sapin a refusé d'évoquer le débat sur le franc CFA, se retranchant derrière la souveraineté des Africains sur le sujet. Le franc, malgré son nom, est la monnaie des Africains, a-t-il dit. L'automatisation du travail, qui devrait remplacer jusqu'à 50% des métiers actuels, ne laissera pas le continent africain indemne. Selon le magazine Jeune Afrique, 5 pays africains sont tout particulièrement concernés par l'essor de la robotisation. Le Kenya, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
Et plein feu sur les stades, Bagassi Koura pour l'esport. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
En Coupe CAF, ce week-end, on joue les matchs retour des barrages.
Oui, tout reste à faire hein, pour les matchs Sumuha Bidvest 0-0 à l'aller ou encore Recreativo contre le CNAPS de Madagascar. Hilal Obeid face au Port Authority ou Supersport United contre les Libériens. Du BYC, BYC en anglais, le corbeau du TP Mazembe devrait pouvoir capitaliser sur leur succès 2-0 à Lubumbashi, mais la GS Kabylie ne compte pas se laisser faire à Tizi Ouzou en Algérie. Battu 1-2 à Libreville, la SEC d'Abidjan à l'occasion à domicile à Abidjan de renverser la vapeur devant le CF Mounana de Libreville. Même scénario pour le Mass-Fest dans le duel entre Marocains face au FUS Rabat. Avantage pour le club africain et le CS Faxien qui se sont imposés à l'aller 2-1 respectivement face à Port-Louis pour le club africain et le Rai Club du Kadiogo du Burkina Faso pour le CS Faxien. Et enfin Morgan, le Oroya de Guinée devra se montrer un peu costaud devant Itia de Tanger. C'est au Maroc hein, malgré le succès 2-0 à Conakry.
Alors, football toujours, cette fois-ci en Tunisie.
Et Morgane, cette question pour vous, hein, vous savez ce que ça peut vous coûter de pincer les fesses d'un arbitre ?
Non.
Eh bien, le président du club faxien, Monsef Kemakem, qui s'était vanté hein, d'avoir pincé à deux reprises les fesses d'un arbitre assistant lors d'un match du championnat tunisien, eh bien, il a été suspendu à vie de toute activité dans le football. C'est en tout cas ce qu'on a appris aujourd'hui hein, de la Fédération tunisienne de football.
Mais pourquoi il lui pinçait les fesses ?
On n'en sait pas, mais en tout cas, elle est suspendue à vie.
En cyclisme, quatrième étape du 26e tour du Togo.
Eh bien, c'était 108 km aujourd'hui entre Kara et Tchamba. C'est le Belge Sepp Wangeloué qui a remporté cette étape hein, en 2h53'16. Le Togolais Akagan Abdourouf occupe la deuxième place du jour. Un autre Belge, Stijn Van Cooper, est arrivé en troisième position. À l'issue de cette quatrième étape, le Néerlandais Peter Merckx conserve toujours le maillot jaune.
En NBA, on connaît le tableau des playoffs qui débute samedi.
Oui, le championnat de basketball nord-américain dans la conférence Est, le premier tour, hein, Boston affronte Chicago, Cleveland, Indiana, Toronto, Milwaukee et les Wizards de Washington vont en découdre avec Atlanta dans la conférence Ouest. On aura les Golden State Warriors contre Portland, San Antonio affronte Memphis, Houston contre Oklahoma City et les LA Clippers vont jouer contre Utah. Morgan, précisons que les demi-finales de conférence Ouest débutent à partir du 1er mai et la finale de conférence à partir du 14-15 ou 17 mai. Et la finale en elle-même, c'est le 1er juin 2017. Le vainqueur de la conférence Est va alors affronter celui de la conférence Ouest.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guiriec, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les journées université morte ont été bien suivies. Sur place, notre correspondante Gwelan Goussou.
Voici trois jours, les cours sont suspendus à l'université de Brazzaville, la seule que compte l'État. Fidel Mukamba, le secrétaire général du CNESUP, le principal syndicat de l'université Marie Ngouabi, dit que le mouvement a été suivi à 100%.
Nous pensons que l'université, ce n'est pas une maison d'administration où les gens viennent pour s'asseoir, étudier des dossiers ou quoi, mais c'est un laboratoire sans lequel tout de fond n'est pas possible dans notre pays. Et il faut qu'il y ait des moyens. Au plan budgétaire, l'université n'a pas suffisamment de moyens budgétaires pour faire fonctionner les établissements. Je dis par exemple qu'aujourd'hui nous sommes en train de boucler l'année académique 2016-2017. Mais bon, il y a au titre de l'année académique 2015-2016, nous avons effectué des heures complémentaires supplémentaires qui sont restées impayées jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que nous revendiquons. Donc, le mouvement est bien suivi depuis le 12, le 13 et aujourd'hui le 14. Et tout est à bien arrêté. Oh, mais j'ai pu dire à 100%. Hein.
À la faculté du droit et à la faculté des lettres, quelques étudiants viennent constater l'inactivité des profs. En fait, ils devaient commencer cette semaine leurs examens.
Oui, ça nous gêne parce qu'il y avait des examens qui étaient prévus pour le passé. Malheureusement, depuis le lundi, la date a été prévue, mais on est arrivé là, toutes les salles étaient fermées, il n'y a personne, donc ça nous dérange.
Étant étudiant, lorsqu'on affiche une date pareille, on se lance déjà dans la session, dans les examens. Du coup, on arrête. Et mentalement, on est abattu.
Oui, ça me gêne. Parce que j'allais déposer mes dossiers de la bourse là, mais c'est fermé. Je ne sais pas comment faire. Non, on dit rien.
D'autres étudiants s'inquiètent de la récurrence du phénomène de grève.
Si l'État ne prend pas soin de régler cette situation, chaque année, ça sera toujours la même chose qui va se répéter. Et pour nous, les étudiants, les futurs cas de demain, on sait pas, on ira où bon. Si eux, jusqu'alors, on n'arrive pas à résoudre leur situation, est-ce qu'à à notre tour aussi, on va résoudre cette situation-là? Chaque année, ça se répète, l'État n'arrive pas à prendre des décisions fermes sur ça, on ne comprend pas. Bon, ça nous gêne vraiment.
Durant les trois journées dites « Université morte à Brazzaville », le ministre des tutelles Bruno Jean-Richard Itoi, en voyage à Cuba, n'a pu rencontrer les enseignants en grève. Finalement, c'est à la fin de cette journée qu'une rencontre aurait eu lieu à la présidence de la République. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Et cap sur le Niger, qui est aussi le théâtre d'une grogne des étudiants. Le campus universitaire de Niamey est fermé et 4 jours après des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre qui ont fait un mort et de nombreuses interpellations. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner ces événements et demander aussi la réouverture du campus pour une reprise des cours à moins de 3 mois de la fin de l'année académique. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
La plupart des structures organisées qui se sont prononcées sur ces événements du 10 avril dernier ont fermement condamné la manière dont l'opération de maintien d'ordre a été conduite par les éléments de la police, de la garde et de la gendarmerie nationale. Talibi Hamidou Moussa, rapporteur général de la Commission nationale des droits humains.
L'irruption des forces de l'ordre au sein du campus, en violation des franchises universitaires, s'est effectuée dans une violence qui n'a épargné ni étudiants, ni personne étrangère au mouvement étudiantin. Et le bilan est grave. Un décès constaté à la morgue de l'hôpital national de Niamey, 4 blessés graves et plusieurs dizaines de blessés aussi bien dans les rangs des étudiants que des forces de l'ordre. Les portes et fenêtres des dortoirs des étudiants défoncés, plusieurs cas de vol d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires, de portefeuilles et de motos.
Le syndicat des enseignants des universités publiques du Niger s'est lui offusqué de la violation des franchises universitaires par les forces de l'ordre. Fatima Mayati, membre du bureau du SNEX.
Ce sont des faits inadmissibles dans un état de droit. C'est pourquoi le Ben SNEX condamne fermement la violation des franchises universitaires et ces faits barbares qui relèvent d'une autre époque et non d'un état de droit. Exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités et déférer les responsables de ces ignobles actes devant les juridictions compétentes. Exige l'ouverture immédiate des campus universitaires de Maradi et de Niamey. Demande le retrait des forces de sécurité des enceintes universitaires.
Les jeunes avocats ont également dénoncé la violence qui a caractérisé cette intervention des forces de l'ordre avant d'exiger la réouverture du campus et la libération des scolaires arrêtés. Boudal et Fred Mouloul, président de l'Association des jeunes avocats du Niger.
La JAN demande à tous les acteurs de la vie nationale d'œuvrer pour que les auteurs directs et indirects des agissements ayant entraîné mort d'hommes soient identifiés et poursuivis. La JAN rappelle au gouvernement que dans un état de droit, la vie et la liberté sont sacrées. C'est pourquoi elle exige la libération immédiate des scolaires arrêtés.
Les partis politiques de l'opposition et un collectif de la société civile ont aussi condamné la répression de la manifestation et exigé la réouverture du campus ainsi que la démission de tous les responsables ministériels, académiques et sécuritaires. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les tirailleurs sénégalais étaient un contingent d'engagés venant du Sénégal, mais aussi du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Ils ont intégré les rangs de l'armée française en 1857 jusqu'au début des années 1960. Aujourd'hui, il y a une volonté, particulièrement au Sénégal, de mettre en avant cet héritage militaire. Blanche Sanou a joint à Dakar le professeur Ibader Thiam, coordonnateur général de l'histoire du Sénégal.
Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont participé à la conquête de l'Afrique au service de la France dans un contexte colonial qui avait ses contraintes et ses obligations. Ils ont joué un rôle quelquefois important qui a été en tout cas à la base de beaucoup de changements qui sont intervenus. Et si l'Empire français a pu se mettre en place entre 1871 et 1914, ce fut essentiellement parce qu'il y avait les troupes de tirailleurs sénégalais ainsi que celles des FAI. Ce que moi je considère comme étant le plus important dans l'action qu'ils ont menée, c'est qu'ils ont participé pendant la Deuxième Guerre mondiale aux différentes opérations qui ont été menées dans la lutte contre le fascisme, dans la lutte contre le militarisme. Ils apparaissent, qu'on le veuille ou pas, comme étant parmi les pionniers de ce qu'on appelle le monde libre.
Peut-on dire qu'il y a eu réellement une reconnaissance pour les tirailleurs sénégalais de la part de la nation française?
Il y a eu des moments où il y a eu de la reconnaissance. Dans de nombreux villages en France, les populations qui se souviennent parfaitement des sacrifices que ces tirailleurs se sont imposés pour les protéger et assurer leur sécurité. Du côté du gouvernement français, des monuments ont été quelquefois élaborés. Peut-être que tout ce qui a été fait n'a pas été fait, parce que quand ces gens se sont sacrifiés, on n'a pas, à la fin de la guerre, tenu compte de ces sacrifices dans les traitements qui leur ont été versés à titre de pension. Les pensions des Noirs étaient différentes des pensions des Français. Ils ont ainsi, pendant des années et des années, vécu dans une situation de misérabilisme criard. Il a fallu des procès, il a fallu des démarches, il a fallu des campagnes de presse pour qu'en définitive, le Conseil d'État a décidé de le connaître qu'ils avaient droit au même traitement que les autres.
Dites-nous, professeur, comment l'État sénégalais commémore ou rend hommage aujourd'hui à ses combattants?
Il a non seulement élaboré un mémorial qui est consacré aux tirailleurs sénégalais, notamment au cimetière de Thiaroye, mais le Sénégal a encore fait beaucoup plus loin, puisque le président de la République du Sénégal, son excellence Macky Sall, a négocié avec la France à Dakar des archives qui ont été détenues jusque-là par la France relatives aux événements qui se sont passés à Thiaroye en novembre-décembre 1944. Ces archives ont été remises au président de la République du Sénégal, qui les a confiées à une commission dont je suis le président et qui travaille aujourd'hui à les passer en revue.
Voilà, c'était le professeur Ibader Thiam, coordonnateur général de l'histoire du Sénégal.
FM FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'armée américaine a largué hier la plus puissante bombe non nucléaire dans l'est de l'Afghanistan. Cette action intervient quelques jours après le bombardement de la Syrie la semaine précédente et la série de frappes aériennes, plus de 40 contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Pour comprendre le déploiement militaire américain qui semble s'intensifier, Anastasie Tudiesch a joint un professeur d'anthropologie à l'université de Lehigh en Pennsylvanie, Bruce Whitehouse.
Bon, il faut reconnaître que, comme candidat à la présidentielle l'année passée, Donald Trump a promis très directement de bombarder les combattants de l'État islamique hors d'eux, pour reprendre ses propres mots. Et c'est simplement ce qu'il poursuit. À mon avis, il n'a pas d'autre but très clair pour le moment, ni politique ni militaire. Ses frappes sont pourtant symboliques. À mon avis, et elle ne risque pas de changer la situation militaire, sécuritaire d'une manière dramatique. Ce sont des symboles qu'il veut manifester à ses supporters et à ses ennemis aussi.
Aujourd'hui, pour la première fois depuis 1994, des troupes américaines sont arrivées en Somalie pour former les militaires somaliens ainsi que les soldats de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Est-ce qu'on doit s'attendre à un engagement militaire américain plus fort en Afrique?
Bon, il y a pourtant des forces spéciales américaines qui sont actives en Somalie et dans la sous-région sur la Corne d'Afrique depuis plusieurs années. Donc moi, je ne vois pas cette mission de formation AMISOM comme un grand départ de la politique sécuritaire du président Obama sur le continent.
Est-ce que la Corée du Nord doit craindre d'être la prochaine sur la liste des frappes américaines?
Bon, là, je me permets d'espérer que les généraux avec lesquels Trump s'est entouré depuis son investiture le déconseilleront de frapper la Corée du Nord. Eux, au moins, les généraux, ils comprennent que le coût de ces frappes serait énorme, pas moins pour la Corée du Sud. Donc, pour le moment, j'interprète le déploiement des navires dans le Pacifique comme encore un message, plutôt un symbole que d'une manifestation d'une intention militaire.
Toutes ces frappes qui se suivent depuis ces dernières semaines sont-elles accompagnées de pourparlers?
Notre président n'est pas un homme guidé par une doctrine politique ou stratégique militaire quelconque. En tant qu'ancienne personnalité de la télé, en tant que personnage de show business, il pense plutôt à son audience. Il s'agit plutôt de montrer que les États-Unis ont toujours la force militaire la plus puissante du monde. Donc, la question de l'efficacité, leur capacité de changer la donne sur le terrain, franchement, je doute que...
Elle est secondaire?
Oui, secondaire au moins.
Bruce Whitehouse, professeur d'anthropologie à l'université Lehigh en Pennsylvanie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, on termine en musique. C'est vendredi après tout. On écoute Papa Wemba avec Diamond Platinums, chacun pour tous.
kasia pola ila na minimo la kanyona na kuja pata kumponya ila tujonde ma nikumbe usiniseme vibaya tena na kuombea kuongezewa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaillimard, Morgane Guerriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.